Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, il est très exactement midi et des poussières en Sud-Lozère. Nous sommes le mardi 20 janvier, soit très exactement 2 mois avant le printemps. Tenons bon et pour patienter, un peu d'ornithérapie radiophonique.
Midi et des poussières.
Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de nos débris, de nos restes, de nos épluchures, de nos résidus, de nos chutes, de nos rogatons, de nos reliquats, de nos pelures, bref, de nos ordures et de nos déchets. Et pour en parler, je suis en compagnie de Thibaut Rouxel. Bonjour.
Bonjour.
Alors Thibaut, vous êtes chargé de mission biodéchets au pôle prévention et valorisation des déchets du syndicat mixte Environnement Sud-Lozère. Merci d'être avec nous en direct dans le studio de Radio Barthas. Alors je viens de citer là tant de mots pour nommer ce qu'on met dans nos poubelles. Est-ce que vous avez un mot préféré, vous ?
Non, pas spécialement. Après, le mot, c'est vrai que le mot déchet, des fois, est un peu utilisé à défaut, notamment pour les restes alimentaires où on parle de biodéchets. Et du coup, c'est vrai que c'est, je préfère parler souvent, voilà, même si le terme, bien sûr, technique est biodéchet, on pourrait plutôt parler de bioressources, de voilà, quelque chose qui, voilà, qui a une connotation plutôt positive que négative. Voilà.
Et encore plus négatif que déchet, il y a le terme ordure qui, lui, est carrément vraiment...
insultant peut-être des fois, mais oui. Après, c'est des tritus, voilà. C'était souvent ce qui était utilisé un peu avant qu'on utilise le mot déchet.
Le mot déchet. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous rappeler un peu quels sont le rôle et les missions du syndicat mixte environnement Sud-Lozère ?
Oui, alors pour vous expliquer, il y en a peut-être beaucoup sur le territoire qui connaissent le nom du SICTOM des bassins du Haut-Tarn. Et en fait, nous, on a changé d'intitulé de nom en fait, du syndicat le 1er janvier 2024 parce qu'on a intégré une nouvelle communauté de communes, donc la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, donc qui est basée du côté de la vallée française, vallée longue. Et donc c'est pour ça que notre nom a changé. Et nous, les missions qu'on effectue au sein du syndicat, donc c'est la collecte des ordures ménagères. Il y a aussi, peut-être certaines personnes sur le territoire vont voir des conteneurs avec un couvercle jaune, gris avec un couvercle jaune. Donc ça, c'est pour les emballages. Donc ça, c'est aussi nous qui collectons ces emballages-là. Enfin, ces conteneurs-là. Et sur le territoire, les gens peuvent aussi voir qu'il y a des colonnes. Donc les colonnes, c'est ce que je parle, c'est les gros conteneurs qu'on voit avec emballage vert papier. Donc ça, c'est pas à proprement dit le syndicat qui les collecte, mais c'est le SDE, voilà, une entité départementale qui s'occupe de collecter ces points-là. Et nous, en plus de cette collecte des déchets, enfin des ordures ménagères, on a la gestion des déchetteries. Voilà. Donc sur le territoire, il y a 6 déchetteries. Et donc du coup, c'est nos équipes en fait qui sont chargées de s'occuper de la gestion de ces sites. Et en plus, voilà, sur le syndicat, on a un syndicat, on a un pôle de prévention et valorisation des déchets dont je fais partie. Donc on est 2 avec mon responsable Léo Martin. Et donc les missions de ce syndicat, enfin de ce pôle, pardon, c'est de s'occuper du coup de tout ce qui est thématique sur la réduction des déchets. Donc proposer des solutions, c'est aussi la question des biodéchets, donc c'est valoriser les biodéchets pour éviter de les mettre dans la poubelle d'ordures ménagères. Donc aujourd'hui ça passe par le compostage individuel, le compostage partagé et aussi l'accompagnement des professionnels à la mise en place de sites de compostage en interne. Et aussi l'accompagnement au tri sélectif, donc donner les bonnes consignes, communiquer sur qu'est-ce qu'on met dans les conteneurs emballage, verre et papier. Voilà.
Donc vous intervenez vraiment sur l'entièreté de toute la chaîne, de la collecte au traitement, en passant par la gestion, la prévention, les bons gestes, l'éducation un peu à voilà, comment gérer nos déchets. Et alors, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais j'ai trouvé en France, donc d'après le Commissariat général au développement durable, chaque habitant produit en moyenne 500 kilos de déchets par an. Est-ce que vous avez les chiffres pour la Lozère, je me demandais?
Alors, je n'ai pas forcément les chiffres exacts, mais je sais que la Lozère se situe assez, est assez calquée sur les chiffres nationaux. Donc on a des chiffres nationaux qui sont assez similaires, notamment aussi pour les restes alimentaires. On pourrait penser qu'on est sur un territoire plutôt rural, donc du coup qu'on a une gestion plus vertueuse des restes alimentaires. Et malheureusement, donc, une étude en fait, qui a été menée en 2021, donc qui commence un petit peu à dater, mais a montré, donc, c'est-à-dire que c'est une caractérisation des sujets, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a dans les poubelles d'ordures ménagères. Et on s'est aperçu, voilà, avec le SDE, donc qui a piloté cette étude, qu'il y a 70% des déchets qui sont mis dans la poubelle d'ordures ménagères qui sont des déchets qui ne devraient pas y être. Mmh. Donc il y a les restes alimentaires qui peuvent être des défauts de solution, voilà, parce qu'on n'a pas forcément, on vit en habitat vertical, en appartement, notamment du côté de Mende, et donc les personnes n'ont pas forcément de solution. Donc ça malheureusement, c'est mis dans la poubelle d'ordures ménagères. Mais ça peut être aussi le tri sélectif, parce qu'il y a des défauts de tri et des personnes des fois peut-être qui ont l'impression que le coût des déchets augmente et que trier ça sert pas à grand chose et que du coup voilà ils le font pas forcément. Mais du coup c'était tout l'objet un peu de notre campagne.
Oui, la campagne, donc c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour notamment annoncer donc une campagne que vous allez lancer très bientôt, je sais pas.
Qui est déjà en cours, qui est
en cours, et donc c'est une campagne pour sensibiliser en fait à la gestion des déchets dans un contexte où il va y avoir une augmentation du coût du traitement des déchets, c'est ça?
Voilà, c'est ça exactement. En fait, pour expliquer un peu aux auditeurs, en fait, il y a une taxe qui s'appelle la taxe générale sur les activités polluantes, qu'on appelle la TGAP. Qui est une taxe en fait qui depuis 2020 a drastiquement augmenté, c'est-à-dire qu'en fait à chaque tonne ici sur le territoire, donc s'il y a des personnes qui le savent pas aussi, c'est de l'enfouissement, et donc à chaque fois qu'on enfouit une tonne, l'État va prélever une taxe.
Je précise, ouais. L'enfouissement, donc c'est-à-dire qu'il y a différentes façons de gérer les déchets, soit c'est incinéré, soit c'est enfoui, et pour les déchets donc qui peuvent pas être valorisés ou recyclés, et en Lozère c'est 100% enfouissement.
Voilà, que vous soyez en Nord Lozère ou en Sud Lozère, c'est de l'enfouissement. Donc le site qui est géré par le SDE. Et donc, en fait, cette taxe-là, en 2020, elle était à 25 euros. Donc, c'est-à-dire que l'État prélevait 25 euros à chaque fois que vous...
Par tonne.
Par tonne, voilà, tout à fait. À chaque fois que vous enfouissiez une tonne, plus la TVA. Donc, il y a de la TVA en plus sur cette taxe-là. Et actuellement, donc depuis 2025, elle est à 65 euros. Cette année, elle devrait passer à 72 euros. Et c'est prévu qu'en 2030, donc c'est un texte qui est sur le projet de loi de finances, donc qui n'est pas encore voté, bien sûr. Mais il est prévu, peut-être, si ce texte-là reste et que ça passe, c'est que ça passe à 105 euros en 2030.
Voilà. Oui, donc ça fait en tout, si on part du tarif de 2020 jusqu'en ce qui est prévu pour 2030, 105 euros par tonne, ça ferait une augmentation de 320%.
Tout à fait.
Ce qui est énorme. Mais qui paye cette taxe ?
Alors, du coup, cette taxe-là est payée, donc à chaque fois qu'on va traiter les déchets, c'est le syndicat forcément qui va payer cette taxe-là. Et derrière, forcément, nous, en fait, le service, en grande majorité, il est payé par les usagers, donc par les habitants du territoire. Et forcément, cette taxe-là, elle se répercute sur la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Elle pourrait, voilà, bien sûr. Nous, notre objectif, justement, à travers la prévention, sensibiliser sur le tri sélectif, sur le compostage, c'est de, justement, éviter ces coûts-là qui pourraient être évités. Et du coup, faire en sorte que cette taxe-là, si éventuellement elle est votée, n'impacte pas la taxe que nous, on met en place, que les personnes payeront sur leur taxe foncière.
Voilà. Et donc, l'objectif que vous avez un peu calculé pour éviter d'avoir des trop grosses répercussions, ce serait donc de diminuer à peu près de 4% le volume des déchets qui sont enfouis chaque année sur le site. Et donc, pour ça, il faut sensibiliser et expliquer comment faire pour que tout un chacun, on puisse réduire donc, notre volume de déchets qu'on met chaque jour dans nos poubelles.
Ouais, tout à fait. Et cette taxe-là, en fait, elle est progressive. 105 euros, c'est le dernier barème, mais c'est-à-dire qu'elle va augmenter au fur et à mesure des années jusqu'à 2030. Et bien sûr, il y a plein. Voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, dans la poubelle d'ordure ménagère, il y a beaucoup encore de restes alimentaires et qui sont assez simples à valoriser. C'est-à-dire pour les personnes qui ont un jardin, c'est le compostage individuel. Et il y a beaucoup d'a priori sur le compostage, alors que voilà, c'est une pratique qui est assez simple et qui, si elle est bien, voilà, si elle est bien pratiquée, il n'y a pas d'odeur, par exemple, des personnes qui vont avoir des rongeurs, des choses comme ça. Si, voilà, il y a vraiment une question d'avoir des bonnes pratiques qui sont assez simples, mais qu'il faut savoir. Donc ça, on fait des formations pour le compostage individuel avec retrait de composteur. Donc toute l'année, on a des formations, les gens peuvent s'inscrire. Donc la formation est gratuite, on demande juste une participation pour l'achat du composteur qui est de 30 euros. Ensuite, on a le compostage partagé. Donc actuellement, ça c'est plutôt à destination des personnes qui sont en habitat verticaux, qui n'ont pas de jardin. Et du coup, l'idée, c'est que donc, l'année dernière, on a installé 15 nouveaux sites de compostage partagé sur différentes communes du territoire. On en avait initié la démarche en 2024 avec 3 sites. Donc actuellement, on est à 18 sites. Et à partir de cette année, l'objectif, c'est d'en installer au minimum 20. Voilà, minimum 20 des nouveaux sur chaque commune. Et donc moi, on avait fait avec le syndicat une petite campagne pour aussi interpeller les personnes si elles souhaitent, voilà, si elles n'ont pas de solution. On encourage en fait les personnes à venir vers nous en fait pour qu'on étudie un projet d'installation d'un site de compostage partagé sur une commune avec l'apport d'un particulier qui sera intéressé aussi pour s'organiser pour être référent de site, voilà, pour devenir une personne qui souhaite référent et qui nous aide à la gestion, voilà, des sites.
Et donc ça, c'était essentiellement pour ce qu'on appelle les biodéchets, les restes alimentaires. Et sur quoi d'autre est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'il y a aussi l'idée de, dès qu'on achète en fait des produits, peut-être privilégier les choses avec moins d'emballage? Ou est-ce que vous préconisez aussi d'autres types de comportements pour qu'on puisse réduire les déchets autres que les ordures ménagères, les déchets alimentaires?
Ouais. Alors du coup là, en fin d'année sur nos réseaux sociaux, on a mené une petite campagne en fait d'un petit calendrier de l'Avent en fait pour donner des bonnes pratiques pour réduire les déchets. Et il y a plein de pratiques. Bien sûr, on pense du coup au vrac. Enfin, c'est-à-dire que aussi pareil quand on va sur un marché, c'est de venir avec ses propres contenants. Il y a plein de petites choses en fait qui font, quand vous allez acheter votre baguette, c'est pas forcément de prendre le papier, donc peut-être venir avec un sac à pain. Voilà, il y a plein de petites pratiques comme ça au quotidien qui peuvent permettre d'éviter des emballages. Et du coup, ça se passe aussi bien sûr quand on fait ses achats alimentaires par aussi éviter les produits suremballés, mais ça s'accompagne aussi peut-être de changements aussi de pratiques, c'est-à-dire peut-être plus aller au marché, d'acheter en vrac. Voilà, il y a plein de solutions. Souvent à tort, des fois on pense que ça coûte plus cher, mais des fois c'est juste des questions de faire attention. Bien sûr, des fois ça peut coûter plus cher parce que les produits sont souvent de meilleure qualité, donc forcément plus cher. Mais il y a plein de pratiques. Donc j'encourage à aller sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, ou soit d'aller sur notre site internet. Voilà, on a un petit calendrier de l'Avent et il y a toutes les pratiques qui sont disponibles.
Et on peut aussi donc voir la campagne en cours pour sensibiliser sur l'augmentation du coût de traitement des déchets. Et elle est assez impactante, cette campagne. On peut la présenter un peu parce que ça commence par « et si on vous annonçait que ?» Et après, en fait, ça fait comme si on appliquait cette augmentation de 320% à la taxe sur le carburant, sur l'électricité ou la TVA sur les produits de consommation courante. On serait tous effarés si d'un coup on nous annonçait que voilà, la taxe sur l'électricité augmentait de 320%. Bah là, en fait, il faut prendre conscience que pour les déchets aussi, c'est très important.
Oui, l'idée, ouais, c'était qu'il y a forcément, il y a des postes de défense, des postes de dépenses qui, si on voit une augmentation, sont tout de suite impactants pour nos yeux et pour le porte-monnaie. C'est vrai que les déchets, comme c'est une taxe qui est payée chaque année sur une taxe foncière, elle est un peu, on la voit pas forcément. Et c'est aussi notamment pour les, voilà, je reviens un peu au reste alimentaire, mais c'est vrai que le reste alimentaire, c'est l'un des déchets où on peut vraiment agir. C'est quelque chose, on n'a pas forcément besoin d'avoir une entité extérieure pour faire une collecte, etc. Et du coup, c'est vraiment montrer qu'on peut reprendre la main aussi sur certains déchets. Concernant le tri sélectif, alors juste pour expliquer pourquoi on demande de trier, tout simplement, c'est parce que la gestion des déchets vers des filières de recyclage ou des filières, des fois aussi c'est des filières de valorisation énergétique, coûte beaucoup moins cher en coût derrière pour le syndicat. Et forcément, c'est des coûts qu'on a en moins derrière à payer et du coup qui ne sont pas répercutés vers les usagers. Et aussi, pour expliquer que le tri sélectif, ça s'est largement amélioré au niveau des consignes de tri. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Avant, vous aviez, par exemple, on vous disait le pot de yaourt, ça va pas dans les emballages. Enfin, voilà, il y avait des consignes qui pouvaient être difficiles à comprendre. Aujourd'hui, en fait, la consigne, c'est vraiment que tous les emballages vont dans la colonne jaune ou dans le conteneur avec le bac jaune. Et donc, il y a beaucoup moins de difficultés de compréhension. Voilà, c'était vraiment emballage en carton, emballage en plastique et emballage métallique. Donc, vraiment, c'est la simplicité. Et j'ai envie de dire que maintenant, aujourd'hui, la poubelle principale, c'est la poubelle d'emballage, voilà, en termes de quantité, de volume.
Et je voulais savoir, les coquilles d'huîtres, ça va dans quelle poubelle ?
Alors, les coquilles d'huîtres, en soi, c'est pas vraiment putrescible. Donc, c'est-à-dire que ça n'a pas une fonction où ça va se dégrader. Alors, il y a deux options. Il y a soit si vous avez un jardin, ce qu'on recommande souvent, ça peut être un très bon paillage minéral. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont soit on peut les casser, soit on ne les casse pas, mais du coup, ça peut être utilisé en paillage un peu minéral. Autrement, la solution, si on est en appartement et qu'on n'a pas de solution, c'est un peu comme les moules, ces choses-là, ça sera ordure ménagère.
Ordure ménagère, voilà. Ok. Ouais. Je posais la question parce qu'à l'époque où M. Eugène Poubelle a mis en place les premiers bacs qui ont donné leur nom aux poubelles, eh bien, j'ai lu qu'en fait, les huîtres, elles n'étaient pas avec les déchets alimentaires, mais elles allaient avec la faïence et le verre dans la poubelle pour faïence et verre.
Ouais, en soi, en quelque sorte, c'est un peu ce qu'on appelle un déchet. Ça peut être un déchet inerte, même si vous mettez, par exemple, une coquille de moule, par exemple, vous la mettez dans un composteur qui monte beaucoup en température. Donc ça, c'est vrai que des composteurs qui sont avec des grosses masses de volume, et ça peut arriver qu'elles vont se dégrader, voilà, avec vraiment la température. Donc c'est pas en soi inerte vraiment, parce que normalement, une matière qui est inerte ne va pas du tout bouger dans le temps, voilà.
Et alors, les déchets alimentaires ici en Sud-Lozère, donc ils sont enfouis dans le site qui s'appelle le site du Redounel sur la commune de Badaroux.
Oui.
Et on peut le visiter, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Alors du coup, ça c'est un site qui est géré par le SDE, du coup qui est une entité, comme j'ai dit, l'entité départementale. Et alors du coup, si vous allez sur leur site qui s'appelle Team Recyclage, vous pouvez vous pouvez vous inscrire en fait pour des visites de groupe. Et souvent, ce qu'ils font, c'est des visites sur l'année. C'est souvent vers le mois de novembre. Pendant la semaine de la réduction des déchets, ils vont communiquer sur le fait qu'ils font des visites pour expliquer comment ça fonctionne et quelle est la fonction d'un site d'enfouissement.
Et c'est probablement très instructif. Moi, j'aimerais beaucoup le visiter. Je pense qu'on se rend bien compte aussi en voyant concrètement comment ça se passe, l'importance de bien gérer ces déchets.
Oui, surtout que, très clairement, un site d'enfouissement, c'est vraiment la dernière solution qu'on a trouvée. En fait, on veut dire, aujourd'hui, ce qu'on appelle un site d'enfouissement, c'est un grand trou aujourd'hui qui est bien suivi. C'est-à-dire qu'on va mettre un sol argileux, on va mettre des géotextiles pour éviter notamment les infiltrations des jus de déchets. Donc, ce qu'on appelle les jus de déchets, c'est des lixivia, et c'est éviter que normalement, quand il y a les eaux de pluie, ça ne va pas dans la terre. Donc, du coup, c'est récupéré vers des systèmes de récupération des eaux à traiter. Aujourd'hui, que ce soit l'incinération, l'enfouissement, c'est les derniers modes de traitement qu'on a, qui sont en place pour gérer un peu le flux de déchets qu'on produit, nous, en tant que consommateurs occidentaux. Et du coup, c'est pour ça que l'idée, c'est de trouver des solutions pour réduire son impact et trouver des solutions pour en produire moins. Voilà.
Et est-ce qu'il y a eu quand même ces dernières années des bonnes avancées, des choses qui se passent bien dans la gestion des déchets ici en Lozère ?
Alors oui, il y a vraiment eu l'extension des consignes de tri, comme on a dit, par rapport à la facilité de faciliter le geste par l'usager et aussi la compréhension des consignes. Et bien sûr, sur les restes alimentaires, c'est une loi en fait de 2024 en fait qui est une obligation de trier la source des restes alimentaires et du coup qui a été mis en place directement par nous, notre syndicat. Donc, ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens, parce qu'on va dire que, par exemple, les restes alimentaires, c'est aussi un déchet qui était... on va dire que les premières lois de déchets, c'est 1975, et du coup, il y a eu la collecte des déchets, etc. Mais c'était avant qu'il y ait des habitats verticaux, en fait, le reste alimentaire, c'était quelque chose qui était vraiment vu comme une ressource par le monde paysan, parce qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu redonner une nouvelle image à ce qu'on appelle ce déchet, même si ce n'est pas vraiment un déchet, et donner les solutions pour notamment les personnes aujourd'hui qui sont dans les villes et qui n'ont pas de solution pour retirer ces matières-là. Et après, bien sûr, tout ce qui est consigne de réduction, voilà, il y a beaucoup plus de politiques de prévention des déchets qu'il y en avait avant. Et donc, du coup, c'est toujours plus donner de solutions, de sensibiliser sur des bonnes pratiques pour les usagers.
Voilà, donc composter, citoyens, citoyennes, il faut composter. Et je précise qu'on peut aussi retrouver plein de guides de bon usage des déchets aussi sur votre site internet pour savoir comment bien faire un compost. Il y a aussi des cartes interactives pour trouver les lieux où on peut déposer ces déchets, notamment les restes alimentaires. Et est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse de votre site internet ?
Oui, alors le syndicat, il s'appelle environnementsudlozere.fr. Voilà, enfin, environnement sud Lozère. Et donc, du coup, vous tapez environnementsudlozere.fr et vous tomberez sur notre site. Et comme vous le dites, il y a du coup un onglet ressources. Et voilà, l'idée, c'est vraiment aussi d'agir sur la communication et donner des petits outils, en fait, aux usagers. Donc, du coup, voilà, il y a un guide sur le gaspillage alimentaire, il y a un guide sur les biodéchets. Voilà, il y a plein de solutions pour agir sur sa production.
Voilà, et vous êtes là aussi, donc tout un chacun peut vous contacter s'ils ont des questions ou des projets, donc de mettre en place, comme vous l'avez dit, des composts collectifs.
Tout à fait.
Et ben, merci beaucoup Thibaut Rouxel d'être venu nous parler de ces enjeux très importants pour notre territoire.
Merci pour votre accueil.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, cause each time I see you, I break down and cry, walk on by.
On écoutait à l'instant Walk On By de Dionne Warwick, un morceau de 1963. Vous êtes toujours dans Midi et des Poussières sur Radio Bartas. Et je voulais attirer votre attention, chers auditeurs et auditrices, sur une info importante si jamais vous ne l'avez pas vu passer. Oxfam a publié hier, lundi 19 janvier, son nouveau rapport sur les inégalités dans le monde, alors que s'ouvrait à Davos la réunion annuelle du Forum économique mondial, où se rencontrent les élites politiques et économiques de la planète, qui s'y rendent volontiers en jet privé. Greenpeace Suisse révèle d'ailleurs d'ailleurs qu'entre 2023 et 2025, le nombre de vols privés pour se rendre au forum a plus que triplé, eh bien Oxfam, elle a fait paraître donc ce rapport pour alerter sur la hausse spectaculaire de la fortune des milliardaires faisant, je cite, de la décennie 2020 celle du creusement des inégalités. Je vous invite à aller sur leur site www.oxfamfrance.org pour lire le rapport ou pour regarder la vidéo qui le résume. Et en attendant, je vous donne juste quelques chiffres clés. En 2025, dans le monde, la fortune des milliardaires a augmenté 3 fois plus vite que pendant les 5 années précédentes. La fortune des milliardaires a augmenté de 81% depuis 2020 pour atteindre en 2025 son plus haut niveau historique, soit 18 300 milliards de dollars cumulés. On n'a même pas idée de ce que ça représente, tellement c'est vertigineux. En France, les 53 milliardaires français sont désormais plus riches que plus de 32 millions de personnes réunies, soit près de la moitié de la population nationale. Et les milliardaires ont 4000 fois plus de chances d'occuper un poste politique que les citoyens et citoyennes ordinaires. Et oui, car au-delà de la pure injustice financière, le problème est que concentration des richesses et concentration des pouvoirs sont corrélés. Titrant son rapport « Résister au règne des plus riches, défendre la liberté contre le pouvoir des milliardaires », Oxfam montre comment, je cite, « les ultra-riches accaparent le pouvoir politique afin de façonner les règles de nos économies et de nos sociétés au service de leurs propres intérêts et au détriment des droits et libertés des populations à travers le monde ». Et comme le dit Amitabh Behar, le directeur général d'Oxfam, « la pauvreté économique engendre la faim et la pauvreté politique alimente la colère. Les gouvernements font de mauvais choix pour satisfaire l'élite et favoriser les grandes fortunes, tout en réprimant les droits et la colère des citoyens et citoyennes face au coût de la vie devenu inabordable et insupportable pour un trop grand nombre. » Et pourtant, des solutions existent, fiscales notamment, comme la taxe Zuckman en France par exemple, qui, le rappelle Oxfam, bien qu'elle soit soutenue par 85% des Français, eh bien, elle a suscité une contre-offensive majeure des grandes fortunes, un déni démocratique qui alimente un climat politique dangereux. Et je terminerai en citant les propos de Leïla Abdelé Yacoub, qui est responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalité à Oxfam France. Elle dit « À l'approche de 2027, alors que l'extrême droite progresse et que certains milliardaires comme Vincent Bolloré utilisent leurs empires médiatiques pour diffuser ses idées, remettre la justice fiscale au centre du débat est une urgence démocratique. » Voilà, et en parlant de démocratie, eh bien, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les élections municipales, n'oubliez pas de le faire vite. La date limite, c'est le 6 février.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Et on continue cette émission sur des notes plus légères, celles que nous propose Max avec sa nouvelle chronique hebdomadaire dans Midi et des Poussières, enregistrée hier après-midi dans les studios de Radio Bartas. Salut Max.
Et salut.
Alors tu es de retour pour ta chronique musicale qui porte un nom désormais.
Oui.
Quel est-il ?
La Minute de Masque.
La Minute de Masque. Étonnant, non ?
Oui, pardine.
Et alors, aujourd'hui, tu vas nous présenter un morceau, donc de qui et comment il s'appelle ?
Alors, le morceau, c'est « Qui c'est celui-là ?» de Pierre Vassilieu. C'est un de ses plus connus, un de ses plus vieux aussi, mais c'est pas des moindres. Et bon, c'est un des plus faciles, parce qu'après, il a pas tout d'évident. J'hésitais avec un autre morceau, mais bon, je le passerai peut-être plus tard pour les initier. Mais là, on va commencer léger, même si c'est pas si léger que ça, puisqu'il y a un sens quand même dans ses paroles. Puisqu'il parle quand même un peu de sexe, un peu d'apéro et de la connerie humaine. Donc c'est quand même pas mal pour un morceau de cette époque-là.
Ok, donc ça c'est du Pierre Vassilieu pour débutants. Mmh. Et d'ailleurs, pour ceux qui, celles et ceux des auditeurs qui connaîtraient pas ce chanteur français, comment tu pourrais le présenter ?
Un grand monsieur avec des textes et surtout pour l'époque, ce qui n'était peut-être pas très connu, avec vraiment des bons musiciens qui ont fait vraiment du rock, pop, song à la limite, je dirais, et plein de choses et assez éclectiques, mais vraiment beaucoup de musique aussi.
Et il a démarré quoi dans les années 60, fin des années 60 ?
Oui, ça doit être dans ces eaux-là, oui. J'étais un peu petit pour l'époque, mais j'ai connu après. Moi, j'ai connu Pierre Vassilieu, c'est des amis qui me l'ont présenté au début du Festival de Florac, en début 80, des années 80.
Tu veux dire, tu l'as rencontré en personne?
Non, non, la musique.
La musique, ok. Et c'était quoi ce festival, festival de Florac? Ça s'appelait comme ça, le festival de Florac?
Ouais, ouais. C'était début, ça a commencé en 80-81, et puis ça a duré 7 ans, il y a eu 7 éditions, je crois. Et c'était vraiment une bonne semaine, enfin bon, 3-4 jours de... C'était l'époque des grands festivals, et Florac en a bien profité. Même si tout le monde n'était pas content à l'époque, mais...
Un festival de musique, excusez-moi.
Musique, essentiellement musique, mais il y avait aussi, pour l'époque... à peu près toutes les grandes compagnies de spectacles connues d'aujourd'hui qui ont débuté au Festival de Florac.
Et pourquoi ça s'est arrêté alors? Pourquoi ça a duré comme
ça? Ça a été surtout financier parce que, oui, je crois que c'était surtout financier. Il y avait beaucoup trop d'invités pour la rentabilité. Mais c'était très sympathique.
Et ça t'a permis donc de découvrir Pierre Vassiliou.
Exactement.
Et bien on écoute tout de suite qui c'est celui-là.
Je ne suis pas un playboy, je ne fais pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de queen. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille. Et leur mari disait de moi. Ce n'est pas de ma faute à moi si les femmes mariées préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes cheveux blonds et mes yeux polissons. Mais je crois que ce qu'elles préfèrent, c'est mon petit ventre rond. Et leur mari disait de moi. Vous saviez comme c'est beau d'être bien dans sa peau. Je bois mon pastis au bar avec le chef de gare. Je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Et les gens disent de moi. Que sur cette terre tout n'était que vice, et que pour faire des affaires je manquais de malice. Je montais dans mon engin interplanétaire, et je ne remis jamais les pieds sur la terre. Et les hommes disaient de moi, qui c'est celui-là? Complètement toqué ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, je dis pas. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis champagne, les gars. Elle est vraiment bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Il a un drôle d'accent, ce gars-là. Il a une drôle de voix. On va pas se laisser faire, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Non mais ça va pas, mon petit gars. On va le mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce gars-là, complètement gaga. Il a une grande tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis champagne, les gars. Elle est vraiment bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui
Voilà, c'était Qui c'est celui-là de Pierre Vassiliou, le choix de Max pour sa nouvelle chronique La Minute de Masque. Ouais, il est super ce morceau musicalement, c'est vraiment très chouette. C'est hyper inspiré de la samba, on dirait, les rythmes très brésiliens.
Mais il a plein d'influences un peu diverses, même après il a beaucoup fait de l'africain. Et du rock aussi, donc non, faut écouter, c'est très bien.
Très beau. Et les paroles, c'est marrant, donc ça raconte quoi ?
C'est une vie, l'histoire d'une vie. Des choses très intéressantes, souvent au cinéma, mais là, c'est en chanson.
C'est vrai qu'il y a un côté film, on se met les images dans la tête de ce mec un peu blondinet qui arrive et qui vole toutes les femmes des mecs du village qui sont un peu énervés contre lui, à raison, on peut imaginer.
Non, pourquoi à raison? Ça dépend.
Bah, s'ils se font piquer leurs femmes.
On ne peut pas piquer ce qui ne nous appartient pas.
Ça, c'est vrai. Ok, quoi d'autre dire sur ce morceau? Toi, donc, c'est à tes yeux, un morceau facile pour débuter en Pierre Vassiliou, si on ne connaît pas.
Voilà, tout à fait.
Eh bien, on a hâte de la suite de la leçon, alors tu viendras nous faire entendre d'autres choses.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Max.
Merci à toi. À bientôt.
À bientôt.
Midi et des poussières.
De retour en direct dans le studio de Radio Bartas. Merci encore à Max. Et une annonce importante à vous faire avant de clore cette émission. Certains d'entre vous le savent peut-être, la radio va déménager. Et oui, nous quittons ces locaux pour nous installer dans des nouveaux bureaux qui seront beaucoup mieux isolés, ce qui sera très important pour les étés très chauds et les hivers très froids. Et donc, pour déplacer l'entièreté de Radio Bartas, eh bien, on a besoin de plein de bras. Alors, si vous êtes disponible le samedi 28 février et que vous avez les bras, l'envie et l'énergie pour nous aider, eh bien, venez, on vous accueillera à partir de 8h30. Alors oui, c'est un peu tôt, mais il y aura du café. Et on terminera vers midi en vous servant à boire et à manger pour vous remercier. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire signe à l'avance si vous pouvez être là pour nous donner un coup de main, comme pour qu'on sache un peu combien on sera, et notamment pour prévoir les repas. Voilà, bah, vous pouvez passer nous voir, nous écrire à contact@radiobartas.net, nous envoyer un petit message sur le portable de la radio au 07 46 26 40 21. On compte sur vous. Merci mille fois par avance pour votre aide. C'est la fin de ce Midi et des Poussières. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Bartas.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement
midi
et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.